France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Marc Perron, ce poète de l'accordéon diatonique et ce poète tout court qui aime faire rimer la chanson populaire, la musique de danse, le rock et la java. Après la sortie de son dernier disque, Babelgum, il est de retour avec nous pour raconter sa belle histoire, commencée en banlieue parisienne, avant de s'ouvrir à toutes les musiques du monde. Marc Perron sera mon invité dans un instant, mais avant toute chose, je vous le promets, cette chanson n'est pas misogyne, elle est simplement drôle et en plus, elle est swing.
Elle est laide comme un pou, mais tellement intelligente qu'elle est charmante après tout.
Mais tellement intelligente qu'elle est charmante après tout.
Elle est laide, 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 elle est laide comme un pou, mais elle fait bien la cuisine, et ma foi, ça c'est beaucoup.
Mais elle fait bien la cuisine, et ma foi, ça c'est beaucoup.
Elle sait être tendre quand j'ai soif de ses baisers, et pour le lui faire comprendre, j'éteins l'électricité.
Elle est laide, 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 elle est laide comme un pou.
Mais quand on éteint la lampe, bah ça ne se voit plus du tout.
Mais quand on éteint la lampe, ben ça ne se voit plus du tout.
Elle est laide, 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 elle est laide comme un pou. Mais elle a des yeux pervenches qui ne louchent que par un coup.
Mais elle a des yeux pervenches qui ne louchent que par un coup.
Elle est laide, 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 elle est laide comme un pou. Mais comme elle est un peu folle, elle met de l'imprévu partout.
Mais comme elle est un peu folle, elle met de l'imprévu partout.
Plus on la regarde, plus on voit ses qualités. Mais comme personne ne s'attarde, je suis sûr de sa fidélité.
Elle est laide, 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 elle est laide comme un pou.
Mais comme ça, je suis tranquille, et tant pis pour les coucous.
Mais comme ça, je suis tranquille, et tant pis pour les coucous. Elle est laide, 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 elle est laide comme un pou.
Mais on dit qu'elle a un type, ça vaut mieux que rien du tout.
Elle a un type.
Mais on dit qu'elle a un type,
oh non,
ça vaut
c'est
mieux
pas vrai.
Que rien du tout. Elle est laide, 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 elle est laide comme un pou.
Seulement comme elle est bonne fille, elle le sait, mais elle s'en fout.
Seulement comme elle est bonne fille, elle le sait, mais elle s'en fout.
Elle n'est pas difforme.
Il ne faut rien exagérer.
Je dirais même qu'elle a des formes agréables à mesurer.
Elle est laide, 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 laide.
Ça, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais au fond, plus on y pense, elle n'est pas si laide que ça.
Mais au fond, plus on y pense, elle n'est pas si laide que ça.
L'excellent orchestre de Reventura, ça c'était au temps de leur exil en Argentine en 1941, cette chanson que j'aime beaucoup sur des paroles et une musique de Paul Misraki.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous l'ai dit, nous avons rendez-vous maintenant avec un maître de l'accordéon, celui surtout qui nous a fait redécouvrir un instrument oublié, l'accordéon diatonique. Et puis, il a créé des rencontres avec tous les styles musicaux et même, vous le verrez dans son nouveau disque, avec la poésie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Perron.
Quelle est vertu à Aubervilliers, l'eau verte du canal y est. Son long ruban déplié me fait rêver, qu'il faisait bon le regarder. Dessous les ponts bien étalés, l'eau scintillait, il y flottait des rats crevés. Dessus ses bords, usines encore toutes délabrées, puis à la mort. Les abattoirs de la Villette, aux écarcasses venaient pas nettes, bouillon salace, finir en miettes. Au fil de l'eau s'en vont les mots, on a les bords de l'eau qu'on peut. Et tous les ports rêvés qu'on veut. Au loin là-bas, au bout du bout, à l'ouest, la lumière.
Bonjour Marc Perron.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous accueillir sur cette belle valse et puis aussi avec ce poème qui est dans votre nouveau disque, parce que ce disque, c'est plus qu'un disque, hein, c'est un roman musical, on pourrait dire.
Oh là là, depuis longtemps, pour moi, les mots, la musique, ça se mélange bien dans ma tête. Et là, j'ai décidé d'allier des textes à des musiques que j'avais composées.
Voilà, et des textes que vous avez écrits
oui,
également.
Oui, que j'ai écrits.
Enfin, il y a aussi Charles Baudelaire et quelques autres.
Oui, Charles Baudelaire et Marie-Odile Chantrand.
Oui, bien sûr. Merci. Mais donc, vous vous racontez aussi dans ce disque, vous revenez à des souvenirs de votre enfance.
Oui, parce que je trouve que c'est important d'aller chercher derrière des choses, de les ramener aujourd'hui et d'en faire quelque chose aujourd'hui. Parce que dans ce cas de figure, c'est la vie même, ça nourrit la vie du moment qu'on vit. Et puis après, bon, les graver sur un CD ou un disque, ça permet de partager ça.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, ça devient peut-être quelque chose dans l'aujourd'hui des autres, même s'il semble que ça vient de loin dans le passé, ça devient quelque chose qu'on peut vivre aujourd'hui, quoi.
Et alors ce partage, dans ce disque, c'est aussi le partage avec une bande d'amis très proches.
Très très proches, oui. Ça s'est trouvé comme ça. Il y a tous les gens que je suis, qui me suivent, qui sont avec moi depuis 40 ans.
Dont certains que moi je ne m'attendais pas à trouver avec vous, même si je les aime beaucoup. Par exemple, Gilles Lapape, on vient d'entendre son violon là. C'est aussi un ami de longue date, Gilles
Lapape ? Pas de si longtemps que ça, mais quand j'ai fait mon disque Cinéma Mémoire en 93, l'altiste s'appelait Jean-Marc Lapape. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Gilles. Son frère. À l'époque, j'avais écouté des choses qui me plaisaient beaucoup, bien sûr formidables, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et puis en 88, à l'occasion d'un festival dans l'agglomération rouennaise, j'ai rencontré Gilles Lapape en direct dans les coulisses. Et il devait jouer un concerto assez compliqué avec l'orchestre symphonique. Et on avait peur de l'embêter dans les coulisses, quoi. Et il a dit non, pas de problème. Et entre le moment où il nous a dit pas de problème, tout va bien, et le moment où il est rentré sur scène, il s'est passé 20 secondes. Ah, je me suis dit, quand même, d'où il sort celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, on a immédiatement eu des atomes crochus.
Alors, parmi les amis, on reviendra à certains d'entre eux tout à l'heure de ce disque. Il y a notre cher Marcel Azola.
Ouais, bah oui.
90 ans, mais toujours cette jeunesse d'esprit et cet amour de la musique. Et puis Jean-Luc Bernard à la batterie, Marie-Odile Chantrand, votre compagne et complice de toujours. Jacques Di Donato, Bernard Lubat, André Mainviel. C'est un très beau disque qui vient de paraître. Ça s'appelle Babel Gomme.
Oui, Babel Gomme. C'est un jeu de mots justement autour des mots. Je suis très très intrigué par les langues en général, l'oralité en particulier. Ouais. Et je suis issu de l'immigration, comme on dit. Et dans ma famille, quand j'étais petit, j'ai entendu trois langues. Le français, l'italien et le dialecte de mon père. Et un jour que je faisais une animation au lycée de Hervilliers avec des gamins qui venaient du monde entier, dans une classe de seconde, il y en a un d'entre eux qui est venu à la fin et qui m'a dit « Ah monsieur, moi je connais trois langues. » Il m'a dit « Je connais le chinois, je connais le mandarin. » le dialecte de mon père est le français. Et je lui dis, bah moi aussi. Puis après, j'ai pensé à tous les autres gamins qui étaient dans la même...
Qui ont tous des histoires de trois langues.
De langues. Ah, je me suis dit, les cours de récré sont remplis de phonèmes qui se baladent de bouche à oreille de manière incroyable et qui font qu'ils sont le marqueur du fait que l'immigration se joue pas sur un temps court, mais sur un temps long. Ça dure 20, 30 ans, ça met du temps.
Alors, on va revenir justement à cette tour de Babel, d'ailleurs, dans laquelle vous avez grandi d'une certaine façon. Tout de suite, Marc Perron, on remonte dans vos souvenirs musicaux et on va remonter avec un peu de musique de la Louisiane qui a été très importante pour vous.
Un jour un million, toi te vas pleurer. Mais mon un million, j'ai de lui passer. Tu fais du mal, gâtin.
Voilà, ça s'appelle Jolie Bassette. Alors, parlez-nous, Marc Perron, de ces musiciens cajuns qu'on entend là et que vous adorez.
C'est Corré Fontenot au violon.
Oui.
Et
Alphonse Ardouin
dit Boissec, B-O-I-S.
Voilà.
Boissec. C'est le premier disque cajun du sud de la Louisiane que j'ai jamais entendu. C'était dans les années 70. C'était en import et ça s'appelait le Blues des Bayous. Et ces messieurs sont des Noirs américains.
Mais qui pratiquaient un français.
Ancien. Là aussi,
très
les
ancien.
Langues. Et donc, issus de. Du français, des gens qui ont immigré là-bas au 17e, quoi, au 16e même.
Et c'est là que vous avez découvert ce qui allait devenir votre instrument, c'est-à-dire l'accordéon diatonique. Dans cette musique, où on le pratiquait toujours, on le fabriquait toujours, même aux États-Unis.
Même aux États-Unis, oui. Et parce qu'à l'époque, je jouais beaucoup de guitare, j'étais passionné de blues, en particulier du Delta, du Mississippi. Et quand j'ai entendu ça, vous avez entendu le swing qu'il y a, qui est incroyable. Ça m'a touché profondément. Après, j'ai vu des musiciens à la fête de l'UMA qui venaient de là-bas. Et quand j'ai vu ce petit accordéon, ça m'a fait un coup au cœur.
Alors, ce qui est amusant dans votre itinéraire, parce que, au fond, vous êtes de famille italienne, mais née en France, vous avez grandi dans la banlieue française, à un moment où vous êtes des années 50, l'accordéon commençait à être très très mal vu quand vous étiez enfant et adolescent, ça vous intéressait pas du tout. Donc vous êtes allé vers le blues, vous nous l'avez dit, et puis c'est par la musique traditionnelle, par le folk au fond,
absolument.
Comme on disait à l'époque, que l'accordéon vous a attrapé.
Oui, ça m'a attrapé, puis parce que dans ces musiques-là, la musique a une fonction particulière, c'est de faire danser.
Ah oui, c'est
quand
très important
entend,
pour ça, vous,
c'est très important. Par exemple, la musique qu'on vient d'entendre se jouait dans des fées de dos. Les fées de dos, ça s'appelait comme ça parce que c'était des balles où les gens emmenaient leurs petits-enfants qui faisaient dodo dans un coin pendant qu'eux dansaient.
Ah ouais.
Et c'est une musique qui a vraiment une fonctionnalité sociale très forte, comme ça l'a été dans les campagnes en France aussi et dans toute l'Europe. Et ça m'a toujours beaucoup intrigué. Ça a déterminé toutes mes activités des années 70 avec Marie Odile et quelques autres.
Voilà, parce que vous, peu après, donc découvrant finalement cet accordéon, vous avez rejoint le groupe Perlimpinpin Folk,
De Gascogne.
Avec déjà Marie Odile.
Non, c'était 74-75. Nous ne sommes pas encore officiellement
ensemble,
mais c'est juste après.
Voilà,
mais
et vous partez à la découverte des musiques traditionnelles
françaises également. De Gascogne, la musique de Gascogne surtout.
Voilà.
Et là, je rencontre quelques accordéonistes qui m'ont beaucoup marqué, en particulier une accordéoniste qui était à Saint-Maton, dans le Gers. Saint-Maton, la plaque tournante du trafic de foie gras en France.
Ah bah, ça, ouais. Je ne savais pas.
Et Léa Saint-Pé, qui était une formidable accordéoniste, qui jouait des rondeaux, gascon.
Ah, vous avez fait un peu comme Bartok, là, quand il partait dans les campagnes bulgares, à la recherche de ce qui restait de la tradition.
Très modestement, comme Bartok, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis allé écouter, entendre, et essayer de faire comme il faisait, quoi. Essayer de jouer à la lettre ce que ces gens nous communiquaient. Et là, je me suis aperçu d'une chose très importante pour moi. Et j'ai mis longtemps... Après, Jean-Luc Godard m'a fait comprendre, dans une interview, qu'en fait, c'est un système d'apprentissage par analogie, parce qu'on peut toujours s'escrimer à tout noter au détail près, pour attraper les inflexions de rythme. Ouais. C'est impossible. On ne peut jamais faire exactement comme on peut faire pareil, mais ce n'est pas la même chose exactement. Et dans ce qu'on rate, il y a la part de création de celui qui essaye.
Bien sûr. Et puis par ailleurs, il faut dire, vous l'évoquiez à propos de ces trois langues, par exemple, mais vous avez été à la recherche d'une certaine authenticité musicale, mais en même temps, vous n'avez jamais été à la recherche de la pureté d'un style. Vous êtes plutôt quelqu'un qui a toujours été tenté par la rencontre des styles.
Exactement,
et des gens.
Exactement. Je pense que l'authenticité, entre guillemets, j'en ai rien à battre. L'authenticité, ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec le matériel qu'on reçoit.
Ouais.
Hein, et ce qu'on en fait pour soi, au moment, pour soi et pour les gens qui nous entourent. Et dans ce qu'on en fait pour soi, on ne défend plus un patrimoine.
Ouais.
Ce n'est pas une histoire de patrimoine, c'est une histoire de quoi on vit et de quoi on est fait. Et curieusement, on va parler après sûrement des copains, mais j'ai découvert que d'autres étaient attelés à la même tâche dans d'autres secteurs de musique.
Alors justement, bon, voilà, on a vu cette enfance, l'accordéon qui arrive avec les cajuns et puis la musique traditionnelle en France. Et enfin, c'est seulement dans un deuxième temps, si j'ose dire, que vous rencontrez la grande école française de l'accordéon avec, par exemple, notre ami Azola ici avec Mouloudji.
Je sais pas pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux Musettes, mais quand un gars lui prit un baiser, elle frissonna, elle était chipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dit avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donna le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait garisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serrement n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux deux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, son bel amour, son amant de Saint-Jean, elle ne l'aime plus, c'est du passé. Non,
pas non plus. Mouloudji avec Marcel Azola et des musiciens qui ont s'amusé avec Marc Perron à essayer de deviner en écoutant. Alors, peut-être Lina Bossati au piano. Ouais,
je suis presque sûr.
Peut-être Didi Duprat à la guitare.
Ouais, c'est possible.
Voilà, enfin, toute la fine fleur de la tradition française de l'accordéon, que donc, après ces années folk, après vos débuts à l'accordéon diatonique, finalement, vous avez rencontré cet accordéon que vous n'aviez pas envie de connaître quand vous aviez 15 ans.
Voilà, exactement. Mais j'ai rencontré cet accordéon, j'ai surtout rencontré Marcel.
Marcel Azor.
Ah ouais, parce que la première fois qu'on s'est vu, c'était dans un festival en Belgique, ça devait être en 77. Et on a tout de suite sympathisé. Je veux faire mon premier disque que je venais de faire chez Polydor. Et il m'a rappelé le lendemain ou le surlendemain. On a mangé ensemble et il y a une espèce de fraternité qu'il y a eu avec lui tout de suite. Il m'a présenté à plein de gens d'accordéon chromatique.
Peut-être qu'il vous a fait découvrir aussi, j'ai envie de dire, la face noble, élégante de l'accordéon.
Absolument.
Qui n'était pas forcément celle qu'on voyait au premier plan à l'époque.
Bien sûr. Absolument, bah oui. Bon, vous avez vu comment ça joue là.
Oui, c'est ça.
C'est d'une élégance extrême. C'est incroyable comme il joue. Il m'a présenté Didi Duprat.
Alors, il y a aussi un lieu qui a été important après la rencontre avec Marcel Azola. Ça a été la fête de l'humanité.
Oui.
À deux pas de là où vous aviez grandi finalement.
Oui, où j'allais tout le temps quand j'étais gamin.
La cité des 4000, c'est ça.
Voilà, cité des 4000, bah oui. C'est là que j'habitais. Oui, c'est vrai que la Courneuve, pour moi, c'est important. C'est pour ça que dans mon disque, il est beaucoup fait allusion au paysage de l'enfance. Moi, j'aime bien cette phrase de Roland Barthes qui disait que le vrai pays, c'est
le pays de notre enfance.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
C'est une grande vérité. Et c'est le pays de l'enfance. C'est le pays de l'enfance. C'est ce qu'on y entendait. C'est ce qu'on y voyait. C'est les souvenirs qu'on en a, les images qu'on peut en avoir. Et les retravailler au moment, aujourd'hui, quoi. C'est vraiment pour moi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de la nostalgie, c'est en faire du vivant maintenant, quoi.
Mais justement, alors Marcel Azola, à la fête de l'humanité en 1982, je crois, vous présente justement ce qui aussi, c'est bien avant l'aventure de Paris Musette, déjà essaye de se réapproprier l'accordéon pour faire quelque chose de neuf, et notamment Bernard Lubat, Michel Portal et tous ces musiciens très inspirés, mais en même temps amoureux de traditions populaires.
Absolument. Quelques anecdotes, c'est le journaliste Charles Sylvestre qui m'a convié. Il a été recommandé par Marcel pour y être. Marcel n'a pas pu être là ce jour-là parce qu'il jouait avec Yves Montand à New York.
Ah oui.
Lui n'était pas là, mais il y avait Galliano, il y avait Bernard, il y avait Portal. Je me souviens, il y avait un bœuf final et c'est Lubat, Bernard qui était à la batterie, qui faisait signe à chacun d'avancer, de passer. Et à un moment, ça a été mon tour, alors il m'a fait signe, il était derrière sa charlet, là, il jouait, il n'y avait plus que lui, on entendait... Et il m'a fait, vas-y, je passe devant Portal, j'étais pas rassuré, j'avais juste un petit accordéon, une rangée, deux basses, italien, et je me suis dit, bon, je vais jouer une tarentelle, à mon avis, ils vont pouvoir tout se greffer dessus. Et je suis passé devant Michel Portal, que je venais de rencontrer... avec qui j'avais beaucoup sympathisé aussi.
Qui jouait déjà un peu d'accordéon, lui aussi, ou de bandoneon plutôt.
Qui en jouait déjà très sérieusement. Et l'après-midi, il y a eu un truc rigolo, c'est que je faisais une petite balance, et il y a deux gars qui souriaient en bas. Quand je suis descendu, je suis allé les voir, et ils m'ont dit, ouais, c'est formidable. Et après, j'ai su qui ils étaient. Physiquement, je ne les connaissais pas. C'était Portal et Lubat. Et Michel dit à Bernard, tu vois, Bernard, c'est ça qu'on cherche. Alors moi, je dis, mais bon.
Ah bon.
Alors, le soir, comme c'était sympa avec Michel, je passe sur scène devant lui au moment d'aller jouer dans le bœuf. Et je lui dis, Michel, tu viens avec moi? Il me dit, je sais pas, je vais voir, j'écoute. Ce qui m'est pas forcément à l'aise. Et puis, j'ai commencé à jouer cette tarentelle. Et derrière, j'ai entendu un tsunami de clarinettes arriver. C'était lui et puis tous les autres qui sont venus.
Alors, à propos de chercher et de trouver, est-ce qu'on peut dire, Marc Perron, qu'il y a un moment où vous avez trouvé votre style? Est-ce que vous sauriez le situer? Toutes ces expériences, ces apprentissages, tout d'un coup, il y a Marc Perron qui devient un musicien populaire et très identifiable avec son instrument, ses mélodies simples et en apparence et très envoûtantes. Et à quel moment la sauce prend, si j'ose dire?
Mon Dieu. Alors ça, c'est pas facile à dire. Je sais pas, ça s'est construit au fur et à mesure.
Un peu.
Maintenant, le temps passant, je commence à entendre ce que vous dites un peu, modestement. Mais ça se fait toujours une espèce d'insécurité, on se sent toujours un peu bancal par rapport à soi-même.
Enfin, on peut dire que
ce travail-là.
Un an après la fête de l'UMA, en 83, oui, la Forcelle, c'est déjà,
ouais, déjà je suis
Marc
déjà,
Perron.
Ouais, c'est, oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à jouer de l'accordéon, en fait, la genèse de ça, c'est quand j'ai commencé, le cajun m'a intéressé, en 71, 72, et bien sûr, j'ai voulu en jouer. Mais pour comprendre un style, il faut voir jouer les gens. Et là, moi, je pouvais pas, j'avais que le disque. Donc, j'ai bricolé un truc qui ressemblait à du cajun. Et je me suis aperçu, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en essayant de faire comme, j'avais inventé un petit bout de quelque chose qui m'appartenait. Et petit à petit, à partir de là, j'avais tiré le début de la plotte. Et après, ce que vous dites, bah, j'ai tiré tout le reste jusqu'à aujourd'hui.
On peut dire quand même le premier vrai disque à succès de Marc Perron.
Oui, c'est vrai que ça.
La Forcelle au Chant du Monde en 1983.
83, ouais.
Et là, vous y êtes tout entier. Et en même temps, vous rendez hommage dans ce morceau à Émile Vacher,
qui était
le roi de l'accordéon.
La diatonique, il jouait un système diatonique à la main droite et chromatique à la main gauche. Ouais, et il avait un style exceptionnel. Il jouait vraiment formidablement bien pour faire danser les gens.
Oui, c'est ça.
Et le morceau, là, cet hommage, Vas-y Mimil, c'est vraiment pour lui, à l'époque que je l'ai fait. Et la danse qui va avec, parce que c'est un mélange.
C'est
une valse. Sauf qu'à un moment, il y a les tours à deux pas. Alors, ça vous dit pas, ça fait. Les pieds font 1, 2, 3, 1, 2, 3, pipe, 1, 2, 1, 2.
Et
ça, c'est une création géniale de Marie-Odile Chantran. Voilà.
Ah ben bah voilà, alors on la félicite pour ça. Et
qui
entre
est une
autres,
grande danseuse. Voilà.
On va en reparler d'ailleurs de Marie-Odile, mais là, dans ce morceau qu'on vient d'entendre, c'était Bernard Lubat qui était aussi le complice arrangeur.
Arrangeur, hein. Oui, dans ce disque, il a arrangé trois morceaux, fait un peu de percussion sur un autre morceau.
Voilà.
Et c'était la première trace de collaboration avec lui. Ça a été dans ce disque, La Forcelle. Il a écrit toutes les voix, il y a trois sax derrière, joué par le même grand saxophoniste. c'est lui qui a créé tout ça.
Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu, Marc Perron, parce que les auditeurs ne savent pas forcément tous à cette question de l'accordéon diatonique. Hein. Quand vous commencez en France, c'est l'accordéon chromatique, joué par tous ces merveilleux musiciens venus de Belgique, d'Italie, d'Auvergne, etc. Qui règnent. Et vous, vous réhabilitez, donc, après votre découverte des cajuns, cet instrument qui avait quasiment disparu, qu'on ne trouvait pas dans les magasins, etc., qui est d'une technique complètement différente. Hein.
Oui, c'est très différent. C'est un instrument qui était très implanté dans les campagnes. À l'époque, il y en avait un dans pratiquement chaque armoire, parce que le père ou le grand-père avait joué du diatonique. C'est un instrument plus petit, plus léger.
Plus petit en taille, oui, c'est
voilà.
Ça.
En gros, l'accordéon est né diatonique, avec ce système bisonore, une note en poussant.
Oui, et une autre note en tirant.
En tirant, voilà, comme les petits harmonicas.
Mais sauf qu'il disparaît au début du XXe siècle, quasiment.
Oui, parce que 1860, les Allemands, puis les Italiens, se mettent à construire ce petit accordéon de manière quasiment industrielle. Et en 1900, un constructeur italien découvre un doigté transpositeur sur 6 rangées de boutons avec le système diatonique. Puis il se dit, tiens, si on gardait ce système transpositeur et qu'on rendait l'instrument unisonore, c'est-à-dire la même note, on pousserait en tirant, on aurait un instrument formidablement pratique.
Voilà.
Ce qu'il a fait, et le chromatique est né.
Et c'est l'accordéon que on connaît bien aujourd'hui.
Ah ben oui.
Mais sauf que vous, votre aventure a presque contribué à redonner vie
C'est vrai
à l'accordéon diatonique. On en a refabriqué grâce à vous, on peut dire.
Oui, c'est vrai que... on va pas faire de publicité. mais la maison Castagnari, je les ai rencontrés en 79. Un des frères, Massimo, m'a dit que c'était le 5 décembre 79, je me suis pointé chez eux, parce qu'un vieux constructeur à Castelfidardo, là où se construisent beaucoup les accordéons, depuis toujours, m'avait fait un instrument en bois. Mmh. Et à l'époque, tous les accordéons étaient recouverts de perloïdes, avec des perles, enfin avec tout ça. Moi, je voulais un instrument en bois. Et ce qui l'a surpris, ce vieux monsieur qui s'appelait Arrigo Guerini, et il m'a dit, t'es sûr, tu veux pas... un truc avec des couleurs. J'ai dit non. Alors, des photos de footballeurs. J'ai dit non. Tout en bois. Ah bon, à l'antique, à l'ancienne. Il me dit. J'ai dit ouais, exactement. Il m'a fait un instrument. Puis ce monsieur est mort, il était âgé. Et j'ai cherché désespérément quelqu'un qui me construise un diatonique, mais comme un vrai instrument.
Ouais.
Et là, j'ai rencontré Mario Castagnari, qui lui a dit ok.
Voilà.
J'essaie, mais moi, je veux faire que du top qualité. Parce que l'accordéon diatonique était un peu fait de bric et de broc.
Alors, vous avez cité pas mal de compatriotes, si j'ose dire, italiens. On a parlé d'Azola, on a parlé de la grande histoire des accordéons venus d'Italie.
Oui.
Vous-même de parents italiens, vous sentez rital, comme on disait autrefois, Marc Perron.
Je me sens d'ici.
Oui.
J'ai les deux pieds ici depuis toujours, hein. Je suis né à Villejuif.
Mais dans votre famille, on parlait encore italien?
Oui, oui. Quand j'étais dans la petite enfance, j'avais ma grand-mère maternelle et mon père parlaient dialecte de là-bas entre eux. Et donc j'ai entendu ça m'est rentré dans l'oreille jusqu'à l'âge de 4 ans à peu près.
Ouais.
Mes parents ne parlaient pas beaucoup entre eux. Ma mère, je suis un peu boiteux au niveau immigration. Ma mère est arrivée dans les années 20, elle avait 3 ans ou 4 ans. Et mon père est arrivé en 46, il avait 28 ans. Donc, elle a eu son certif.
Oui, elle était...
Elle était déjà...
pleinement francophone. Elle,
voilà, francophone.
Ouais.
Et mon père, lui, était bilingue, mais ils sont toujours ingénieux à ne pas me parler italien pour l'école, parce que fallait réussir.
Eh ben oui. Mais alors, quand vous écoutez Paolo Conte, vous comprenez les paroles ou pas?
Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette chanson. Ah, j'adore cette chanson parce qu'elle s'inscrit complètement dans la canzonetta, la chanson italienne, napolitaine. Lui n'est pas du tout napolitain, mais cette tradition des chansons un petit peu comiques, surréalistes, humoristiques. Formidable, et ce qu'il raconte est génial. Sa copine est partie à la plage, il aurait le désir d'aller avec elle, mais au fond de lui-même, son désir l'entraîne dans le sens inverse.
Ah.
Voilà ce que dit la chanson.
Azzurro, nanana.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va.
Azzurro, Paolo Conte au Théâtre de la Ville en 1985, et c'est un choix de mon invité Marc Perron qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler entre autres de son nouvel album Babelgum, mais aussi des autres, parce que vous êtes toujours beaucoup intéressé aux autres, Marc Perron. Votre vie c'est une histoire d'amitié, de découverte comme on le voit aujourd'hui, et dans ce nouveau disque, alors il y a votre voix, on l'a entendu tout à l'heure, votre voix de poète. Et puis, il y a les voix chantées de Marie-Odile Chantrand, d'André Mainviel. Marie-Odile Chantrand, donc d'abord, qui est votre compagne depuis de très longues années maintenant. Parlez-nous un peu de Marie-Odile.
C'était très difficile d'en parler pour moi, mais je vais essayer. Marie-Odile Chantrand, c'est une drôle de construction artistique, parce qu'elle est guitariste d'abord. Elle a fait beaucoup de guitare classique quand elle était jeune. Puis elle est devenue danseuse et mérite vraiment de danse traditionnelle. Puis, à mon instigation un peu, elle s'est mise au violon. Puis, elle s'est mise un peu plus tard à la vielle à roue, dont elle joue formidablement bien. Et depuis, après, comme elle dit, 20 ans de résistance, elle s'est mise aussi à l'accordéon diatonique.
Ah voilà. Voilà.
Et elle chante.
Et elle chante plusieurs morceaux dans
elle
ce disque.
Elle chante, elle et André.
Alors André Mainviel, c'est via Luba, Uzest, etc.
Oui, bien sûr, Uzest. On s'est rencontrés en 85 au Carnaval de Venise, où il était avec la compagnie Luba pour la première fois. Et on est devenus amis en deux mots. Ouais. Tout de suite, on est devenus très copains. Et ce qui m'intéresse dans ces deux voix, c'est qu'elles sont singulières. Ce sont vraiment des voix hors tout ce qu'on peut connaître. Marie-Odile a une voix singulière, d'enfant presque. Et André a une voix, comme il dit, des Pyrénées. Mais pas seulement, ce sont des voix qui assument totalement leur singularité. Et ça me plaît beaucoup.
Alors on va écouter par exemple maintenant justement André Mainviel dans De tout temps.
Oui.
Je trouve qu'il y a une fusion justement entre... entre vous et lui, cette ligne de chant très, très libre.
Ça s'est forgé au fil des années. Et on a fait 5 chansons ensemble avec André, en 30 ans. Et ça, c'est la dernière. Et c'était une mélodie que j'avais enregistrée à l'accordéon, que je lui ai envoyée. Et lui, chez lui, a enregistré sa voix. Voilà, donc il a épousé complètement mes tournures, il s'est glissé là-dedans, et il a inventé un texte qui est très, très chouette, quoi.
Temps présent de tout déchaînement, temps passé de nous conditionner, tant de temps passé présentement, passe tous les désenchantés. Vent de foule et des chants de la houle, loin tu roules dans les cris de la foule, prends le temps, la musique et le chant, l'élan du temps des changements. Rends la servitude aux habitudes, aux turpitudes des solitudes, prends les tourbillons des émotions, aux floraisons de nos passions. Rends les amertumes fruits des rancunes, aux joies posthumes qui perdent plumes. Prends dame rebelle, va de plus belle, attire d'elle, l'histoire appelle. La beauté du geste saisit dans l'instant, le temps déchine et tire l'ire sans machine. La beauté du monde se danse des ondes, dans tout frisson d'art le cœur abonde. Pour la beauté du geste, il y a l'art des rimes, sans l'algorithme, et là-bas de chacun son rime. Dans la beauté du monde, il y a ses visages, tant de paysages vont de passage. Vent de foule et des chants de la houle, loin du roule, dans les cris de la foule. Prends le temps, la musique et le chant, l'élan du temps des changements. Rends la servitude aux habitudes, aux turpitudes des solitudes. Prends les tourbillons des émotions, aux floraisons de nos passions. Rends les amertumes fruits des rancunes, aux joies posthumes qui perdent plume. Prends dame rebelle, va de plus belle, attire d'elle, l'histoire appelle-la.
De tout temps, André Mainviel et Marc Perron en duo dans ce disque Babelgum, le nouveau disque de Marc Perron. Un très beau moment de musique parmi beaucoup d'autres. On va revenir d'ailleurs encore au disque, Marc, mais je voulais faire encore une petite incursion pour revenir dans tout ce que vous avez fait. Après donc les succès de La Forcelle et les disques qu'on suivit, vous avez été aussi très attiré, happé, hasard des rencontres aussi, mais par le monde du cinéma. Ouais. Ça a été quelque chose d'important. Il y a eu la rencontre avec Bertrand Tavernier, il y a eu les musiques de films muets, etc. Qu'est-ce que ça a représenté dans votre histoire, Marc Perron?
Comme tous les gens, enfin beaucoup de gens de ma génération, c'était difficile de pas être cinéphile.
Oui.
On a tous vu. Moi, je me souviens
c'était
quand
quoi,
j'étais.
Vous, quand vous étiez
alors, quand j'étais au lycée de Vervilliers, je me souviens avec mon copain Philippe Braconnier, je me souviens de son nom. On partait à midi pile. On courait prendre le métro porte de la Villette pour aller au Champollion. Et à l'époque, on avait 17-18 ans. On allait voir les festivals de Marx Brothers.
Ah, les Marx Brothers.
Tous les Marx Brothers au cinéma de Champollion entre 12h30 et 14h, puis on revenait en retard au cours. Ouais, on se passait.
Ah, vous alliez à Paris voir un film à l'heure du déjeuner.
Voilà,
hein,
voilà, ouais, on courait comme
sportif.
Ouais. Parce que c'était moins cher à ce temps-là. Donc j'ai toujours aimé le cinéma. Puis un jour j'ai rencontré Bernard Favre,
voilà,
avec qui j'ai
oui.
fait La Trace. J'ai participé à La Trace avec Richard Berry, tout ça.
Comme acteur.
Comme acteur et musicien.
Oui, mais aussi comme acteur.
Et comme acteur.
Ça vous tentait.
Un rôle de composition chez l'accordéoniste.
Okay,
qui
bon.
Remontait. Voilà, c'est toute une histoire, La Trace. Et puis, Bertrand Tavernier était co-scénariste. Il a entendu une valse que j'avais faite pour le film La Trace, que Bernard n'a pas pris dans son film. Et lui m'a appelé quelques semaines plus tard en me disant « Allô, Marc Perron, cette valse me plaît beaucoup. Bernard, on n'a pas voulu, moi j'achète pour mon prochain film. » Film qui s'appelle « Un dimanche à la campagne ».«
Un dimanche à la campagne, 1984.
Voilà. » Et puis j'ai fait « enfin la musique de la guinguette. Par hasard, j'ai rencontré sur le tournage, entre autres, Robert Doisneau, qui était photographe de plateau. D'ailleurs, ça a donné un texte que j'ai fait dans mon dernier disque, que je lui dédie un peu, parce que autour de mes souvenirs de petite enfance, dans le square du Luxembourg, et de Gentilly, où j'habitais, et où lui a habité aussi. Voilà, et Je ne sais plus pourquoi je disais tout ça.
Bah pour voir comment ça s'est enchaîné au cinéma.
Ah ouais, cinéma.
Tout Tavernier et Madame Douaneau.
Et Bertrand m'a dit tout de suite, peu de temps après, c'est dommage, plus personne ne joue Henri Jaubert. Alors moi, j'ai dit, c'est qui ? Il dit, tu ne connais pas Henri Jaubert ? Et il m'a fait écouter les musiques qu'il a fait.
Pour Marcel Formidable,
Carnet, pour La Talente, pour Quai des Brumes. Là est née l'idée de faire un disque qui s'appellerait Cinéma Mémoire.
Voilà, c'est ça.
Et où j'ai réenregistré toutes les musiques qui me plaisaient du cinéma français. Puis j'ai fait quelques bricoles avec Bertrand. Je participais un peu à La Vie Rien D'Autre, à L627.
Ah oui, oui beaucoup, beaucoup finalement. Vous avez une vraie carrière cinématographique.
Ouais, et puis après j'ai fait des musiques pour.
Et les films muets aussi.
Et les films muets.
Voilà.
Là, Jérôme m'a proposé de faire de la musique sur Tir au flanc de Jean Renoir. Film muet, quand même long, un long métrage. Première collaboration qu'il a eue avec Michel Simon. Et je me suis retrouvé devant une copie qui n'était pas restaurée. Et pour moi, Renoir, c'était un monument.
Ouais.
Je me suis dit, je vais me faire éreinter par les cinéphiles. Je vais me faire tuer, faire de la musique là-dessus. Et j'en ai parlé à mon ami Jacques Rosier, Adieu Philippines, tout ça. Et il m'a dit, oui, c'est bien la musique au cinéma, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop tout le temps. Ah bon ? Et effectivement, j'essaie de pas...
Vous avez laissé des silences dans vos films.
Voilà, ouais, exactement. Ouais. Parce que c'est vrai que les films muets deviennent parlants quand il n'y a plus de musique, à des moments.
On pourrait écouter pour le plaisir la valse d'un dimanche à la campagne.
Ah ben, bon Dieu. Thank you.
Un dimanche à la campagne, la valse composée par Marc Perron pour le film de Bertrand Tavernier. Vous êtes toujours en contact avec Bertrand Tavernier,
Marc Perron? Oui, j'ai mis le téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis on a participé, Marie-Odile et moi, au prochain film de Nils, son fils Nils Tavernier, qui réalise en ce moment, qui termine, un film qui s'appelle Facteur Cheval, sur l'histoire
du Facteur Cheval. Et vous y participez?
Oui, parce qu'il a choisi une des musiques qui s'appelle...
Du nouveau disque, La Belle Gomme.
Voilà.
J'avais envie de vous demander, Marc Perron, tous ceux qui vous aiment et qui vous connaissent comme nous à France Musique savent que votre vie est rendue difficile depuis de très longues années par la maladie, qui aujourd'hui fait que c'est plus difficile de vous déplacer, vous ne donnez plus beaucoup de concerts. Alors est-ce que ce disque, c'est aussi un peu une forme de défi, d'une certaine façon?
Pas de défi, mais c'est né dans un moment obscur d'hospitalisation.
Ouais.
Et j'avais pas fait de disque depuis 10 ans. Et puis dans ce trou noir là de ce problème de santé il y a un an, j'ai réécouté sur mon iPhone, vive les téléphones portables, des musiques que j'ai composées et enregistrées, que je me chantonnais. Ça donne Ça donne du cœur à l'ouvrage, oui.
Ouais.
Et petite anecdote, quand j'ai été opéré, au moment de m'endormir, je chantais une des musiques que j'ai fait là.
Ouais.
Et je me suis réveillé, j'ai fini de chantonner. Enfin, bref, on traverse tous des moments comme ça, un peu difficiles dans nos vies. Et c'est là qu'est née l'envie de le faire. Puis il y a aussi les amis. À ce moment-là, je voyais régulièrement, quand il passait par Paris, Gilles Appap.
Ouais.
Et lui, ça faisait des années qu'il me disait, mais il faut qu'on fasse une session, comme il est à moitié américain, à moitié français, parce qu'il vit à Los Angeles. Lui, il emploie beaucoup le mot session. Il voulait qu'on fasse un petit enregistrement. Et puis, ça s'est trouvé que j'ai eu l'idée de faire ce disque, qui soit de passage à Paris. Je lui ai dit, banco, allons-y, faisons une session. Et il est venu, et c'est lui qui m'a poussé au crime.
Et ça vous a fait beaucoup de bien aussi, dans ce moment difficile.
C'était stimulant. Et puis après, j'ai invité tous les copains.
Les autres sont arrivés.
Ouais.
On a dit Luba, Mainvielle, Azola, Jean-Luc Bernard. On n'a pas évoqué tellement encore Jacques Di Donato, qui est un merveilleux musicien
formidable.
Aussi.
Jacques, bien sûr, j'ai rencontré ses précis dans mon souvenir en 88 à Uzest.
Là encore.
Il n'y a pas de hasard. Et Jacques, il m'a vraiment fait découvrir d'abord la musique improvisée, tout ça, puis il s'est mis à jouer mes trucs, il a trouvé un intérêt. Je me disais, quand même, un gigantesque musicien comme lui.
À la clarinette.
Ouais.
Et à la clarinette basse.
Et à la clarinette tout court avec moi.
Ouais.
Et surtout, il m'a fait découvrir Mozart.
Ah,
ça, c'est drôle.
C'est
parce
très
que
important.
Un
pour
jour,
vous
on était, c'est un souvenir très précis. Il joue avec sa compagne et élève qui s'appelait Isabelle Dutoit, à deux clarinettes, des petits arrangements qu'ils avaient faits de sonates pour deux violons de Mozart. Il les jouait à deux clarinettes. Et il jouait ça dans le lieu où j'étais hébergé, à Uzest. Et j'ai trouvé ça très très beau, très émouvant, quoi. Magnifique, quoi. Et un jour, on était au Café du Sport, à Uzest. Et c'était un soir de fin de match de l'équipe de foot d'Uzest. Il régnait une ambiance un peu délirante. Ils buvaient l'apéro, ça parlait fort, ça chantait fort. Et c'est un moment où on cherchait un lieu de paix. Pour pouvoir causer, on était mal tombés. Alors, et j'ai dit à Jacques, écoute, sortez les clarinettes, je veux que moi, Mozart, pour voir, ça va peut-être les calmer. Et ben, ils m'ont dit, oh, tu crois? Puis hop, ils sont pris au jeu et ils ont joué une des pièces qu'ils m'avaient jouées l'après-midi. Et là, c'était extraordinaire. Au fur et à mesure que la musique montait, et sans forcer, le silence s'est fait. Et je vous jure, à la fin, dans ce Café des Sports, où certains étaient assez arsouillés, et tout ça, au comptoir, tout le monde était dans le plus parfait silence, parce que Mozart était là. Et depuis, j'ai comme beaucoup, écouté beaucoup Mozart.
Mozart, c'est votre compositeur, fallait en citer un.
Oui, puis il s'est trouvé que Gilles joue merveilleusement Mozart, il s'est trouvé que tout ça, quoi. Et Portal aussi, Michel.
Merveilleux mozartien aussi.
Bah ouais.
Alors Mozart, c'est votre compositeur, et Baudelaire, c'est votre poète, parce que dans votre nouveau disque, tous les poèmes sont de vous, sauf un qui est de Baudelaire.
Alors voilà, ça c'est une histoire particulière. Marie-Odile Chantrand me récite ce poème tous les soirs, accidentellement, comme ça, dans nos vies, parce qu'elle le sait par cœur depuis longtemps, et elle le dit souvent, ça m'a toujours fait très plaisir. C'est un poème un peu mystérieux. Et puis un jour, elle est revenue une balade à pied, et elle m'a dit, ça y est, j'ai trouvé une musique. Ah. Alors beaucoup de gens l'ont mis en musique, mais là, c'est une mélodie qu'elle a fait, et c'est elle qui chante le « Tu parles Charles ».
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes. Si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière. D'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Baudelaire, chanté par Marie-Odile Chantrand dans Babel Gomme, le nouveau disque.
Et avec au violon
de Marc Perron.
Gilles Appape.
Avec Gilles Appape, bien sûr, et les belles harmonies.
Qui joue, ouais, qui joue un peu comme on aurait pu le faire avec des ondes Martenot.
Voilà.
Mais au violon.
Ce disque, d'ailleurs, Marc Perron, il s'est fait un peu dans l'improvisation.
En particulier,
tout était pensé, construit avant.
Non, ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça s'est trouvé. Par exemple, cette chanson, c'est la première ou la deuxième prise. Et ouais. Ils l'ont fait en direct. C'était pas des voix séparées, sans filet.
Alors, avec Baudelaire, en tout cas, bon, ce merveilleux poème, on est quand même toujours pas loin de la mélancolie. Mais vous, au fond, Marc Perron, si on doit résumer, vous aimez surtout, peut-être comme Mozart, au fond, transmettre quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, de la joie, du bonheur de vivre.
Ouais, du bonheur de vivre avec... Vous savez, moi, je suis d'origine du sud de l'Italie. Hein.
Ouais.
Là-bas, la malinconie, hein, c'est... Ouais. Quelque chose qui cultive, ça habite toute la tradition mélodique italienne, ouais, du sud, puis plus tard l'opéra, puis les chansons napolitaines. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais pour moi, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure encore. C'est ramener des choses, mais pour en faire des projets vivants pour aujourd'hui, pour le moment où on vit. Ça ne tire pas en arrière. Hein, c'est cultivé. C'est le blues, c'est comment on transforme. J'ai l'habitude de dire que faire des mélodies, ça me garantit des peines. Je trouve que c'est on peut pas mieux dire. Hein. C'est transformer en quelque chose qui peut nous être agréable, des choses qui sont un petit peu tristes, quoi.
Voilà. Vous continuez à écrire ?
Ouais.
Souvent ?
Oui. En ce moment, j'ai un projet.
Bon, en tout cas, on peut retrouver avec beaucoup de bonheur aussi, oui, quelques-uns de vos textes dans ce disque. Ouais. Et puis, on va se quitter peut-être avec... Et si je disais Patachou, ça vous irait, Marc Perron ?
Ah oui, oui.
Ouais.
Ah bah oui, avec...
La rue Saint-Vincent ?
La rue Saint-Vincent, c'est...
Pourquoi ?
Parce que c'est une chanson que j'ai entendue quand j'étais gamin, dans les années 50. Patachou, c'était la chanteuse préférée de ma maman. Et je trouve qu'elle a une présence vocale exceptionnelle.
Ouais, ouais.
Mais ça ne se fabrique pas, cette présence-là. J'imagine que c'est une femme qui a cultivé ce moyen d'expression.
Merci Marc Perron d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir si joliment parlé de votre travail et de tous vos amis.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Elle avait sous sa toque de martre, à la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait dans les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été, par les chauds crépuscules, a rencontré Jules, qui était si caressant, car restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la Gerse. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand on l'a couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le soir de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, à la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent.
Rue Saint-Vincent, chanté par Patachou. Patachou qui aurait d'ailleurs eu 100 ans cette année en 2018. C'était un choix de mon invité Marc Perron. Et je vous rappelle que son dernier album qui vient de paraître s'appelle Babel Gomme.
Se rompió tu reloj, ya no quiere caminar. Quitó de mano, ya lo tienes que arreglar. Se rompió tu reloj, ya no quiere caminar. Tu relojito de mano ya lo tienes que arreglar. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar, se rompió. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar, se rompió. Tu reloj ya no quiere caminar esta noche. Bailar el cha-cha-cha. Tu reloj ya no quiere caminar esta noche. Yo me voy a bailar el cha-cha-cha. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar. Taqui, taqui, taqui tu reloj. Taqui al compás del cha-cha-cha. Taqui, taqui, taqui tu reloj. Taqui al compás del cha-cha-cha. Taqui tu reloj, taqui al compás del cha-cha-cha.
El relojito de mano, l'excellent orchestre de Julio Guitérez à la Havane en 1954.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et nous poursuivons cette matinée avec un peu d'opérette. C'est le dernier concert du Nouvel An qui m'a donné envie de replonger un peu dans Boccaccio, l'opérette de Franz von Suppé, dont Riccardo Muti nous a dirigé l'autre jour l'ouverture. C'est une très belle opérette, cette opérette de Suppé, adaptée d'une pièce de théâtre française, comme souvent, elle-même adaptée bien sûr du Décaméron de Boccaccio. Et donc cette opérette viennoise de Suppé fut créée en 1879 à Vienne. Je vous propose d'écouter d'abord deux extraits du premier acte, un des chœurs d'entrée, et puis tout de suite après, le Lied de Boccaccio.
Holde Schöne, hör diese Töne, hör mein zärtliches Liebesgestöhne. Dir, o Süße, send ich die Küsse, send ich schmachtende Liebesgrüße. Mein Gesang für Uli, für Uli, für Uli, dieser Klang für Uli, Uli, für Uli, Uli, sagt ihr ja, für Uli, Uli, er dir nach, für Uli, Uli, dein geliebtester Gatte ist da. Dich zu meiden, von dir zu scheiden, ach, wie nahe geht das uns beiden. Doch zu stehen in deiner Nähe, o beglückendes Wiedersehen. Mein Gesang, Fiuli, Uli, Fiuli, Ulera, dieser Klang, Fiuli, Uli, Fiuli, Ulera, sagt ihr ja, Fiuli, Uli, wer dir nach, Fiuli, Uli, dein geliebtester Gatte ist da. Ich sehe einen jungen Mann durchstehen, nach einem fernen Gegenstand spähen. Der Gegenstand kommt näher bald heran. Sie ist Weib und Mann. Das hübsche Weibchen scheint von heißem Blut. Aus ihren Augen strahlet Liebesglut. Aus ihres würdigen Gatten Angesicht, da strahlt das nicht. Doch der Jüngling, der dort steht, sendet einen Feuerblick, der um Gegenliebe flehet. und sie sendet ihn zurück. Ihr ist selig, sie beglücken, auch der Gatte scheint entzückt, dass ein Weibchen gar so heiter, und zu drein spaziert man weiter. Aber ich hab auf der Stelle meinen Stoff für die Novelle, nimm die Feder gleich zur Hand. Ihr Gegenstand ist allbekannt und dennoch immer wieder interessant. Nur muss man verstehen, im Voraus zu sehen, was noch wird geschehen. Das ist doch jedem klar, was hier im Werke war. Blick, Miene, Wort und Gang steht im Zusammenhang. Kennt man die Menschen nur, kommt leicht man auf die Spur. Humor und Fantasie allein, muss Beistandlein. Doch davon gebührt mir ja nicht der Ruhm, dazu habt ihr mich inspiriert und die Novelle mir diktiert. Ja, einfach vor, gebührt mir ja nicht der Ruhm, dazu habt ihr mich inspiriert und die Novelle diktiert.
Et vos oreilles de connaisseurs auront reconnu la très belle voix d'Herman Pré, donc, dans Boccaccio de Franz von Suppé, sous la direction de Willy Boskowski, grand classique de l'opérette viennoise, repris d'ailleurs en version française en 1882. Malheureusement, on ne le donne plus jamais chez nous. Je vous propose d'écouter tout de suite un autre extrait. C'est au troisième acte, le duo de Boccaccio et Fiametta, Herman Pré et la délicieuse Anneliese Rothenberger.
Lorenza, schöne Frauen, die schönste bist du. Doch höhnst du meine Qualen und lächelst dazu. Du kennest nicht die Liebe, verschmähst die sanften Triebe. Nur Spott und kalte Grausamkeit sind höchste Lust. Einst sollst du sehen, was wird geschehen, wie der verschmähten Liebe Qual die Brust erfüllt mit Wehe. Wie der verschmähten Liebe Qual mit Wehe erfüllt die Brust.
Auch in Florenz sind Frauen nicht ohne Gefühl.
Ach ja.
Wir kennen wohl der Liebe gefährliches Spiel.
Nein, nein.
Wenn wir zu scherzen wagen, verlachen Liebesklagen, wollt doch nicht kalte Grausamkeit.
Ich liebe dich mehr als
Annelise Rottenberger et Hermann Prey dans ces extraits de Boccaccio de Franz von Suppé par l'Orchestre Symphonique de Bavière sous la direction de Willy Boskowski. Ping Pong, une composition du chef d'orchestre Paul Bonneau, enregistrée par ce dernier en 1961. Et puis tiens, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, une autre actualité, c'est la parution chez Frémaux et Associés d'une anthologie de Sonorama. Sonorama, vous savez, c'était ce magazine sonore de l'actualité qui paraissait à la fin des années 50, au début des années 60, régulièrement, et qui donnait les informations politiques, culturelles et autres sous forme de disques souples. Vous en avez certainement vu quelques numéros. Et bien donc, Frémaux et Associés vient d'en rassembler quelques-uns en 3 CD. Voici un petit exemple, c'est Sacha Distel, en mai 1959, qui enregistre à bord d'une caravelle.
Et tandis qu'Archimède discute avec les architectes, Sacha Distel, lui, se sert d'un avion à réaction comme studio d'enregistrement. L'avion a un biréacteur caravelle, à l'intérieur un piano de 200 kg, 2 guitares, 4 micros, 4 musiciens, but de l'opération, donner le maximum d'inspiration aux musiciens pour interpréter Nuages et surtout prouver que Caravelle est parfaitement insonorisé.
Attention, alors silence s'il vous plaît, tout le monde, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
H42, Paris 124, au revoir.
Pas l'instant. À l'intérieur du Caravelle, trois hommes ne peuvent pas profiter de la musique de Sacha Distel. Le commandant de bord, le radio et le navigateur continuent à écouter les ordres donnés par radio depuis Orly et continuent à piloter Caravelle.
Compris, Roméo Alpha, rappelé en passant la scène.
Sacha Distel, je profite d'un moment où vos camarades répètent pour vous bavarder quelques moments avec vous. Évidemment, c'est la première fois que vous jouez à 12 000 mètres d'altitude.
C'est même la première fois que je joue dans un avion.
Dites-moi, vous n'avez pas trop peur en avion ?
Moi, pas du tout.
Quel morceau avez-vous choisi pour cette session d'enregistrement ?
Quelle nuit.
J'ai bu d'un trait deux Finalo et trois whisky. Et puis après, quelques portos avec Johnny. Derrière son bar, je le voyais tout petit. Oh, quelle nuit! Je me souviens d'avoir dansé le cha-cha-cha avec une fille qui ressemblait à Dalida. Tout en pleurant, je lui ai confié ma vie. Oh, 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 quelle nuit! Tout ça est arrivé parce qu'on t'a raconté qu'on m'avait vu avec une jolie femme. T'as voulu te venger et tu n'es pas rentré. Alors je t'ai cherché, voilà le drame. Au petit jour, je suis rentré caca. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Quand tu m'as vu, tu m'as tendu les bras. Que cette femme n'était tout simplement qu'une de mes secrétaires. Et toi tu m'as avoué que pour me faire marcher tu dînais ce soir-là avec ta mère. Pendant deux jours je me suis mis à l'eau de Vichy. Mais en une nuit j'ai découvert et j'ai compris que tu es mon indispensable amour. Oh, 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 pour la vie.
Attention, s'il vous plaît. Nous allons atterrir dans quelques instants à Paris-Orly. Vous êtes prié de vous asseoir, d'attacher vos ceintures et de ne plus fumer. Merci.
Roméo Alpha en vue, autorisé à vous poser. Piste libre dans 10 secondes. Je rappelle
Roméo Alpha, compris. Et oui, à l'époque déjà, on ne fumait pas dans les avions, mais seulement pendant le décollage et l'atterrissage. C'était un extrait de l'anthologie Sonorama 1958-1962 qui vient de paraître chez Frémaux et Associés. On va se quitter maintenant avec un peu de musique de danse, un pas extrait de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, orchestré par Igor Stravinsky.
Thank you.
L'oiseau bleu, pas de deux, de la belle au bois dormant de Tchaïkovski dans la savoureuse orchestration de Stravinsky avec l'Orchestre National d'Écosse sous la direction de Naim Yervi. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Olivier Dupré, réalisation Christine Amadou. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée au fantaisiste Beethoven. Bon week-end à tous sur France Musique. Et sans plus attendre, vous avez rendez-vous avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.